Radio Campus Lille, 9h.
Jusqu'au 25 mai 2026, le Centre historique minier de Leeuwarden présente l'exposition « Au charbon pour un design post-carbone ». Une exposition proposée en collaboration avec le Centre d'innovation et de design du Grand Ornu en Belgique. L'exposition « Au charbon pour un design post-carbone » réunit plus de 40 œuvres de designers, architectes et plasticiens du monde entier. Ces artistes se sont emparés du sujet du charbon sous toutes ses formes pour exprimer, à travers le design, leur vision du monde de l'après-carbone. Luc Pirala, directeur conservateur du Centre historique minier de Leeuwarden.
Cette exposition, elle a d'abord été présentée au Centre de l'innovation et du design au Grand Ornu, qui est un grand site du bassin minier UNESCO côté wallon, hein, côté belge. En fait, avant même mon arrivée ici, je trouvais que c'était une proposition qui serait vraiment intéressante de présenter ici à Leeuwarden.
En quoi ?
Ben justement parce que c'était une exposition qui était une exposition de design et donc qui nous permettait d'avoir un pas de côté par rapport à j'allais dire, notre programmation culturelle habituelle plus historique. Et parce qu'elle était très engagée, c'est-à-dire que, au fond, cette exposition qui s'appelle Au charbon, alors, au charbon, ça peut tout dire et rien dire, mais le sous-titre c'est pour un design post-carbone. Et vraiment, l'idée de l'exposition que les commissaires ont vraiment essayé de porter jusqu'au bout, c'est de voir comment des artistes d'horizons très différents, de pratiques artistiques très différentes, au fond, ont essayé, grâce à quelque part la question du matériau charbon sous toutes ses formes, de quelque part repenser les grands problèmes liés au charbon, qui est quand même cette question de l'extractivisme et évidemment les conséquences que ça a aujourd'hui dans le climat. Donc, le Centre historique minier aujourd'hui est engagé dans une démarche de décarbonation, de sobriété, et ça nous paraissait important d'avoir une vraie exposition qui traite, j'allais dire, de front ces problématiques avec une proposition, moi, que je trouve magnifique et que je conseille à tous les amoureux du Centre historique minier.
Le fait que ce soit des artistes qui s'emparent de ça sur un domaine, le design, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à aborder pour le grand public. C'est pas quelque chose qui vous a effrayé ?
Non, je pense que c'était évidemment un enjeu pour nous de proposer quelque chose de très exigeant en termes de design, et pour ça on n'avait aucun doute que les collègues, l'équipe du Centre de l'innovation et du design du Grand Ornu ferait une proposition au plus haut niveau. Mais tout l'enjeu a été effectivement d'adapter cette proposition à la fois aux salles, mais aussi au Centre historique minier, à son vocabulaire, à sa manière de faire, et évidemment à son visiteur. La réussite du projet pour moi, c'est d'avoir été capable de faire quelque chose de très beau, de vraiment très esthétique, mais en même temps, en termes de discours, de très accessible, de très fondé, et au fond, qui touche tout le monde, quoi. Donc, sans avoir une connaissance vraiment très pointue sur le design. J'invite les gens à venir tenter l'expérience. Il n'y a pas besoin de s'y connaître très profondément en design. Il faut se laisser porter sur les propositions qui sont faites par les artistes, qui à la fois vous toucheront esthétiquement, j'en suis sûr, mais vous feront éminemment réfléchir.
Le but, c'est de comprendre, d'apprendre ou de s'émerveiller, ou les trois en même temps, mon capitaine.
Tout. On n'a pas à faire de choix, je pense, dans les musées. Je pense qu'on a des publics qui sont en recherche de toutes ces choses-là à la fois. Je pense que venir dans un musée, c'est à la fois apprendre des choses, voir des choses qu'on ne voit pas au quotidien, et en même temps, évidemment, toujours de se poser des questions et d'en ressortir un peu différemment de comment on y est rentré. Oui.
Ici, sur ce territoire, on est les premiers concernés pour comprendre que c'est compliqué que de sortir du charbon parce que ça a des conséquences sociales, économiques, environnementales.
Bien sûr. Oui, mais en même temps, on est dans un territoire qui, justement, est un territoire qui a commencé déjà une transformation. Et en fait, on est un territoire de renouveau, de résilience, et qui est aussi aujourd'hui en train de regarder vers l'avant et qui, en se basant sur son héritage charbonnier, est capable d'inventer de nouvelles propositions pour l'avenir. Donc en fait, c'est vraiment le lieu pour avoir ce type d'exposition et ce type de discours.
On entend les enfants passer. Ouais. C'est important que d'avoir cette jeunesse dans le centre historique minier. Et on est ici dans un lieu vivant. On parle de, forcément du post-carbone, du post-charbon. Ouais. Si nous, on a fait une transition énergétique avec un mix nucléaire, c'est que quelque part, on extrait également de l'uranium. Donc, on n'est pas entièrement sorti de ça, sauf que c'est plus chez nous.
Bah complètement, mais c'est un des enjeux aujourd'hui sur lesquels on est confronté. Alors ici, on sort un petit peu de la problématique de l'exposition, mais on va être soumis à deux impératifs qui vont être contradictoires d'un point de vue global. C'est-à-dire, d'une part, essayer d'être souverain et de pouvoir, au niveau européen déjà, être en capacité d'avoir une autonomie sur un certain nombre de matériaux et de matières premières stratégiques. Et de l'autre part, je pense qu'on ne doit pas, mais ça c'est un point de vue personnel, renier évidemment des exigences sociales, environnementales et autres. Donc ça c'est tout le rôle du Centre historique minier à l'avenir, d'être ce lieu de discussion, de débat, parce qu'il y en faut. C'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord sur ces questions-là. Nous, le Centre historique minier, on est engagé pour quelque chose d'autre, mais après tout, tout le monde a sa place ici, les énergéticiens aussi, parce que il va falloir qu'on trouve des compromis pour pouvoir avancer tous ensemble. Et je pense que le Centre historique minier est le lieu vraiment dans la région pour ça.
Alors c'est vrai que si j'aborde la question sur le côté énergétique, on sort du cadre de cette exposition. Néanmoins, on parle quand même d'extraction dans cette exposition avec un film fort à la fin proposé que j'invite tous nos auditeurs à venir voir parce que c'est la réalité, c'est en Europe, mais ça nous concerne également directement si on parle des terres rares, du cobalt, de l'uranium.
Bah tout à fait. Le problème, il n'est pas que chez les autres, hein. Et de toute façon, évidemment, cette exposition, elle invite aussi à avoir, une réflexion personnelle par rapport aussi à nos propres impacts individuels sur l'environnement aussi. Mais je tiens quand même à dire que le sujet, il n'est pas de culpabiliser les gens, mais je pense qu'il est quand même important. Et en ça, je le répète, cette exposition, elle est là pour ça. Elle est là pour, essayer de penser un petit peu différemment. Et les artistes sont là pour ça. Et finalement, à travers les propositions que l'on montre, on invite comme ça, quelque part, gentiment, mais résolument, à essayer de penser autrement, et penser autrement, et faire autrement. C'est tout l'enjeu du projet du Centre historique minier, d'être véritablement un musée qui permet de penser autrement, et qui est vraiment un outil à la fois d'aménagement, mais aussi un outil de transformation du territoire et de ses usagers visiteurs. C'est vraiment toute l'ambition.
L'exposition au charbon pour un design post-carbone est donc visible au Centre historique minier de Leeuward dans le Nord jusqu'au 25 mai 2026. Le commissariat de l'exposition est assuré par Giovanna Massoni et Amandine David. Giovanna Massoni.
Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à sous-évaluer les impacts du progrès. C'est le mettre un peu en question par rapport à ce que nous... La nature nous rend de tout ça. On sait qu'on a mis en danger la nature, mais la nature est tout à fait résiliente. L'homme, malgré tout, ne l'est pas du tout. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'est la problématique sociale, géopolitique et écologique que le charbon porte avec soi et qui est, disons, réinterprétée de manière positive et encourageante, je trouve, par les designers, les artistes, aussi Joanie Lemercier qui nous offre un portrait impressionnant de cette tragédie, l'implication tragique de la construction de cette mine à ciel ouvert en Allemagne, termine avec un acte qui est la protestation, la désobéissance, l'action. Et l'action est créativité, l'action est créative.
Est-ce qu'on peut faire une œuvre de ces actions politiques?
Exactement, mais c'est ça.
Il faut faire des œuvres avec ça.
Pour moi, c'est vraiment s'immerger dans une expérience esthétique qui amène énormément de messages et de sollicitations politiques qui nous ouvrent les yeux, qui nous font pleurer, qui nous font activer quelque chose. Il faut réagir. La résistance... La résistance, c'est art, c'est l'art. Et le design, c'est une forme qui s'approche à la création artistique, mais qui travaille sur la pratique, sur la solution, sur l'expérimentation qui, à petite échelle. Et le souhait, c'est que cette vision ouverte, respectueuse, éthique que le design, désormais, le design, bien sûr, de recherche, a désormais prouvé en plusieurs projets, deviennent effectivement le fil rouge de ce changement qui doit vraiment prendre place maintenant et s'activer, activer.
Est-ce que chez les designers, on faisait encore, peut-être il y a 30 ans, 40 ans, des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui au regard de leur impact environnemental?
Exactement. Certainement. Certainement, on est beaucoup plus attentif, effectivement, à l'impact environnemental et l'utilité. Donc, et surtout, je dirais, à la question de comment on consomme, pourquoi on a besoin de ça. On apprend dans les écoles, désormais, la première question à se poser, c'est pas comment je l'utilise, quelle forme je lui donne, mais ça sert vraiment.
C'est-à-dire que le futile n'existe plus, ne doit plus exister.
Ça peut continuer à exister, mais au niveau d'une échelle industrielle, la question se pose de manière un peu différente. Donc, je peux créer quelque chose de précaire, de bricolé futile, mais au niveau industriel, l'impact devient tellement important qu'il vaut mieux se poser cette question. Et puis, c'est une question aussi de posture, hein. C'est une attitude. Est-ce qu'on doit vraiment continuer à produire et à surproduire pour générer des déchets qui ne sont pas récupérables non plus, hein, parce que maintenant on se pose la question avec les batteries au lithium, etc., à propos d'autres types de mines, hein, parce que là c'est, le discours se reproduit dans d'autres, avec d'autres matériaux, mais on est en train quand même de pérenniser les mêmes erreurs ailleurs. Ça, c'est une vision un peu négative. Ma vision positive, c'est, je suis dans la culture et le design ou les arts plastiques parce que je crois dans cette énergie que la culture peut infuser et pour sauver, nous sauver de quelque chose.
L'exposition au charbon pour un design post-carbone est visible au Centre historique minier de Loarde jusqu'au 25 mai 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur chm-loarde.com. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Technologique s'emballe quand les machines déconnent. J'écoute Radio Campus Lille et je me pose.
Je couche avec moi, c'est peut-être le prix pour garder le contrôle. Alors je second rôle. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresses. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour, et j'en rêve, et j'en crève, et je compte à rebours. Je compte jusqu'à toi, que je ne connais pas. Ça fait comment déjà d'avoir un cœur qui bat? N'en déplaise aux copains, mon néant quotidien, c'est le grand méchant rien, parce que je le vaux bien. C'est encore loin l'amour, à quelle heure et quel jour? Et puis quel âge est-il, et pour qui, mais pourquoi? Je joue face et ses piles, oh non, je ne veux pas rejoindre la galère. Et naufragé du temps qui aurait bien aimé faire, ou refaire un enfant. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresses. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? Oui, la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresses. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour. Est-ce qu'on peut me jurer qu'il fera jour un jour, et que ça vaut la peine? Il ne faut pas craquer. Je veux juste qu'on m'aime, c'est trop demandé. Est-ce que je suis jolie? Pourquoi tout ce gâchis? Qui je suis quand j'oublie, oui, j'oublie d'être en vie. C'est encore loin l'amour, après tout c'est mon tour. Il est temps d'aller bien, c'est encore loin l'amour. Il est temps d'aller loin, jusqu'au bout, jusqu'au jour où je regretterai ma vieille liberté. Jeune fille compliquée, cherche histoire simple et vraie.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head. Turning around, that all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I
L'été sera chaud, nous prévient-on, mais les habitants des Hauts-de-France profiteront peut-être du TER à 1 euro pour aller sur la côte, pour prendre l'air frais de la mer. Et pourquoi pas à Calais, où le musée des Beaux-Arts fait tout pour vous accueillir gratuitement pour la visite de ses collections, mais aussi pour son nouveau fonds consacré à Auguste Rodin, l'auteur de la statue monumentale célèbre dans le monde entier, les bourgeois de Calais qui trônent devant l'hôtel de ville.
Oui, donc Anne-Claire Laronde, je suis la directrice des musées de la ville de Calais.
Donc deux musées à Calais.
La Cité de la Dentelle et de la Mode, qui est un grand musée dédié à cette industrie locale et qui nous permet aussi de présenter des grandes expositions de mode. Et le second dans lequel nous nous trouvons, c'est le Musée des Beaux-Arts. C'est un musée municipal, donc un musée qui dépend de la commune de Calais, qui est finalement le plus ancien, qui se retrouve dans la partie historique de Calais et qui présente aujourd'hui sa nouvelle galerie dédiée à l'artiste qui est central pour la ville, Auguste Rodin.
Voilà, donc on peut donner les différentes sections de ce musée des Beaux-Arts de Calais.
Alors, il y a deux grandes sections, l'une qui est destinée à la découverte des collections Beaux-Arts dans leur ensemble, avec une forte présence de l'art moderne et de l'art contemporain. Et la seconde section est dédiée à Rodin et elle est destinée à rester pérenne et à présenter le grand artiste qui a tant œuvré pour la renommée de la ville grâce à son groupe statuaire Les Bourgeois de Calais, qui sont visibles devant l'hôtel de ville aujourd'hui à Calais et qui sont visibles aussi au musée dans différentes versions, en plâtre, en bronze, sous différentes tailles aussi, hein, plus ou moins petites ou au contraire relativement plus grandes que la taille réelle, la taille naturelle en tout cas. Et c'est dans cette salle que nous invitons les visiteurs à débuter la découverte de la ville. C'est une salle qui peut être aussi pensée complètement séparée du restant du musée, où on n'est pas obligé de visiter l'ensemble du musée. Si on souhaite découvrir Rodin, on peut tout à fait choisir de passer du temps à sa découverte, comprendre sa vie, comprendre son apport dans l'histoire de l'art et partir ensuite à quelques centaines de mètres à pied voir le monument dans son espace naturel au grand air.
L'œuvre de Rodin est vaste et beaucoup de musées dans le monde et en région Hauts-de-France en présentent différentes facettes. Mais après le musée Rodin de Paris, celui de Calais est dorénavant celui qui peut se vanter d'en présenter autant.
Je m'appelle Sophie Hanout, je suis responsable du service des collections pour les musées de la ville de Calais et commissaire de la galerie Rodin réouverte.
Donc Rodin, évidemment, à Calais, c'est un personnage emblématique. Il fait partie, on va dire, de l'histoire de la ville.
Oui, tout à fait, puisque en 1884, la municipalité de Calais commande à Rodin un monument pour commémorer le sacrifice d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons à l'occasion de la reddition de la ville lors du siège de Calais.
Donc sa restitution sous forme d'œuvre, elle se fait comment et qui sont les bourgeois qui seraient identifiés?
Alors nous avons donc un monument que Rodin propose, un monument avec six personnages et non pas le monument à Eustache de Saint-Pierre qui serait celui qui a mené le groupe et qui est le plus identifié. Il propose un groupe de six. Parmi ceux-ci, il identifie bien sûr Eustache, mais par la suite, il donne plutôt des indications en termes de posture ou d'accessoires, puisqu'il va parler par exemple du bourgeois à la clé pour parler de gendarme, etc. Mais Rodin lui-même n'a pas nommé l'intégralité des bourgeois.
Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie à Calais?
Alors cette œuvre a été bien accueillie pour la première maquette que Rodin propose au comité chargé de la réalisation. Par contre, quand il obtient la commande, il va pousser plus loin ses recherches. Il va proposer quelque chose de beaucoup plus personnel et notamment accentuer l'aspect tourmenté de ces personnages. Et finalement, on arrive sur un monument qui n'est plus un monument héroïque, mais plutôt un monument qui représenterait le sacrifice humain. Et cela plaît un peu moins aux commanditaires, Mais Rodin poursuivra dans son idée et finalement, ce sera quand même le monument tel qu'on le connaît, avec des personnages, des individus, avec des émotions humaines qui sera présenté et qui est aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville de Calais.
Il lui est arrivé aussi d'avoir un refus d'une commande?
Alors ça arrive effectivement que Rodin, comme tout artiste du 19e siècle, donc il répondait énormément à des commandes, puisque de toute façon le sculpteur était obligé pour vivre d'obtenir des commandes publiques, et pour faire des pièces de grande dimension, il fallait un certain nombre de facteurs, et notamment un budget conséquent pour acheter les matériaux, du temps, etc. Donc Rodin va répondre très fréquemment à des commandes publiques, et notamment pour... Alors, par exemple, ce que l'on présente dans nos salles, c'est la sculpture de Lazare Carnot à Nolay. Rodin va concourir pour cette statue et ce ne sera pas lui qui sera retenu, ni un autre d'ailleurs, mais finalement Jules Rouleau. Et donc c'est intéressant de voir qu'il voilà, ne va pas toujours réussir à obtenir les commandes. Et une autre commande qui a fait grand bruit, c'est la commande de la Société des gens de lettres qui commande une statue en hommage à Honoré de Balzac. Et là, Rodin va énormément se documenter sur l'écrivain, mais... faire beaucoup d'esquisses en terre, etc., mais va finir par livrer une représentation de l'écrivain très symbolique finalement, puisque une statue très monolithique, Honoré de Balzac est enveloppé dans sa robe de chambre avec une tête assez massive où on le reconnaît très peu, et finalement la Société Jean d'Aide va être très déçue par cela. Elle ne va pas reconnaître ce qui était attendu à ce moment-là dans les milieux artistiques et ce qui était considéré comme étant classique. Donc elle va refuser la commande de la statue d'Honoré de Balzac et va préférer un autre sculpteur pour réaliser. Donc ce sera Alexandre Falguière.
Il y avait déjà cette notion d'appel d'offres, d'appel à commande?
Alors, il y avait plusieurs façons d'obtenir les commandes. Dans le cas de Calais, le maire, Omer de Wavrin, demande à un artiste local conseil sur un artiste capable de traduire le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons, et va du coup contacter par ce biais Auguste Rodin, qui va être emballé par le sujet, et va répondre à la commande.
Est-ce que Rodin, à l'époque, était déjà très célèbre? Est-ce qu'il avait beaucoup de commandes? Est-ce qu'il avait beaucoup à faire? Est-ce qu'il pouvait aussi choisir les commandes auxquelles il voulait répondre?
Alors, son nom commence à circuler dans les milieux artistiques plutôt dans les années 1880, en fait, suite à l'affaire, finalement, de l'âge des reins, où on a mis en question sa capacité à mouler aussi bien, finalement. On a accusé une de ses premières statues d'avoir été moulée sur nature. Donc ça va faire grand bruit. Et une fois qu'il aura vraiment prouvé que c'est bien lui, on va comprendre qu'on est face à un artiste de très très grand talent. Et il va recevoir très vite la commande de la Porte de l'Enfer, donc une commande de l'État, qui va lui ouvrir un certain nombre de portes ensuite. Donc en 1884, il est déjà un petit peu connu. Mais le monument va quand même être une de ses grandes commandes. Après, il a d'autres commandes en cours en même temps que le monument des bourgeois. C'est aussi pour ça que ça va être aussi long.
Donc pour expliquer cette histoire, cette polémique, hein, c'est que l'œuvre qui était présentée, d'Airain, enfin autour d'Airain, c'était une œuvre à dimension humaine, donc on pouvait imaginer être un moulage, c'est ça?
Oui, c'est ça. Rodin va proposer un grand nu à taille humaine et tellement bien réalisé finalement qu'on va imaginer, enfin, un journaliste belge à l'époque va plutôt certainement dans le sens de dire que c'est bien réalisé, mais émettre l'idée que ça pourrait avoir été moulé sur nature. Or le moulage sur nature n'a rien d'artistique, donc n'a pas d'intérêt, en tout cas le sculpteur s'est trouvé particulièrement froissé par cette allégation, et va ensuite mettre tout en œuvre pour qu'on ne puisse plus l'accuser de ce genre de choses, et notamment il ne moulera plus rien à l'échelle une, en tout cas à l'échelle humaine.
Donc les œuvres qui sont dans ce musée des Beaux-Arts de Calais, comment ont-elles été sélectionnées? Est-ce que ça a été facile pour vous de les obtenir?
Alors celles qui sont dans la galerie Rodin sont des œuvres qui appartiennent soit au musée de Calais, soit qui ont été déposées par des institutions, pour la plupart parisiennes, à l'occasion de dépôts. Donc en fait, ce sont des contrats de prêt, mais plutôt de longue durée, que certaines institutions font à d'autres institutions. Donc ici, dans la galerie Rodin, on a des œuvres qui appartiennent au musée, des œuvres qui ont été déposées par la ville de Paris, et des œuvres qui ont été déposées par le musée Rodin, pour la majeure partie d'entre elles.
Et au niveau du choix des œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au musée de Calais ?
Jusqu'à ces dernières années, on présentait surtout des œuvres autour de Rodin, autour du monument bourgeois de Calais. Et en 2019, quand il a fallu renouveler le dépôt, l'idée a été de sélectionner un certain nombre d'œuvres qui ne faisaient pas partie de la série sur les bourgeois de Calais, mais plutôt autour de la Porte de l'Enfer, pour montrer la diversité du travail de Rodin. Rodin n'était pas uniquement l'auteur du monument aux bourgeois de Calais, mais avait aussi une carrière avant et après ce monument.
Est-ce que dans les musées, alors de France, voire de l'étranger, il y a, à part le musée Rodin de Paris, des musées qui ont justement des présentations de cette dimension ?
Alors, je ne saurais pas vous répondre sur le nombre d'œuvres exactes, mais on est effectivement un des plus gros dépôts. Je ne voudrais pas dire le plus grand parce que ça demanderait vérification, mais on est un des plus grands dépôts d'œuvres de Rodin en province.
Est-ce que votre collaboration avec le musée Rodin de Paris vous entraînera peut-être à faire visiter ce musée au public de Calais ?
Forcément, quand on présente ce genre de galerie avec autant de dépôts, je pense qu'on va donner envie à nos visiteurs d'aller en savoir plus, de voir davantage d'œuvres. Et c'est l'idée. Et on fait énormément. Donc le musée Rodin est cité dans tout le parcours. Et on fait des renvois réguliers, notamment, je pense, à la Porte de l'Enfer, avec un QR code qui permet d'accéder directement au site du musée Rodin pour avoir des informations complémentaires. Mais on a vraiment un partenariat privilégié avec ce musée. On reçoit des conseils, du coup, se dépose. La reproduction aussi de beaucoup d'iconographies. Donc effectivement, on espère que ce partenariat se poursuive et que nos visiteurs aient envie d'en savoir plus et voir aller à Paris ou inversement.
Alors le cadre du musée Rodin est un peu comme ici, donne sur un magnifique jardin. Ici, vous avez aussi des espaces.
Oui, tout à fait. On a cette chance d'avoir un musée qui date des années 60, qui est un musée de la reconstruction avec des espaces, des grands volumes, des grandes hauteurs sous plafond, de grandes baies vitrées. Et tout ça, effectivement, la salle Rodin s'ouvre sur le parc Richelieu, où la sculpture des monuments, d'ailleurs, était présentée à l'origine, en 1895. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de passer du temps dans cette salle face à la verdure du parc qui est juste en face.
Voilà, donc c'est pas très loin de la station de train, hein, en fait. Il y a la gare à 500 mètres.
On est à peu près à 10 minutes de la gare de Calaisville, donc à peu près un peu moins de 2 heures de Paris.
Le musée de Calais vous attend donc cet été, et même par la suite. Nul doute que certains d'entre vous feront le voyage pour en découvrir les charmes et les ressources. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
When a crisis rocks the system, you can see them come to patch up the holes now. And they're always pushing policies that work out right for ruling class goals now. And if panic comes to Wall Street, you can hear them stress the need for controls now. But they'll be gone, gone, gone when the people take their power away. We're working out of Washington, they're drawing up a federal plan now. Then it's off to Santa Monica to spend some time consulting for Rand now. They tried to dream up ways to hide the rising cost of bombing Vietnam now. But they'll be gone, gone, gone when the people take their power away. They can't see the oppression 'cause they spend their time to shoot. Like they're just pulling the wool now. And they'll be gone,
their power away. They'll be gone, gone, gone when the workers take their power away. Gone, gone, gone when the workers take their power away. Gone, gone, gone when the workers take their power away. Gone, gone, gone when the workers take their power away. Gone, gone, gone when the workers take their power away.
Moi j'ai le blues de la dinde au marron. Je ne veux pas manger ta dinde au marron. Non, non, non. Je ne veux pas de caviar. Je ne veux pas de saumon. Pour Noël, je veux tout simplement un kebab à Barbès, une pinte de Guinness. Je vais rater la messe. Moi j'ai le blues des vacances d'été, quand les gendarmes s'habillent en bison futé. Moi j'ai le blues le 14 juillet, quand je vois les chars sur les Champs-Élysées. Et pendant que ça crève au Bangladesh, ils défilent avec leur vilain petit pétard à mèche. Moi j'ai le blues, boulevard des Batignolles. Je suis coincé dans ma petite bagnole, entre un bus, un camion, avec pour seul horizon mon volant et mes essuie-glaces. Et je me dis vivement qu'il n'y ait plus de pétrole, qu'on foute les bagnoles à la casse. J'avais le blues sur les bancs de l'école. La maîtresse, elle m'appelait Colargole. J'avais le blues aux trois jours à Vincennes, quand j'ai pété la gueule au capitaine. Et j'ai mordu la fesse au sergent. Je suis P4 évidemment. Au comptoir du Balto, des fois je m'imagine à Chicago, avec un Borsalino, un costard, un gros carreau, une Cadillac et des dollars. Des jolies filles en robe du soir, au coin du bec, un gros cigare, et je jouerai de la guitare. Costume à rayures grises. J'aime pas ta robe de mariée. J'aime pas la tronche du curé. Mes pompes me font très mal aux pieds. Tu peux garder le micro-ondes. Je m'en vais faire le tour du monde sur mon vieux vélo rouillé. Oh yeah, j'ai offert des fleurs à ta mère. J'ai rendu ta main à ton père. Je me suis battu avec ton frère. Ça a fait pleurer. J'ai bu toutes les bières qu'il y avait dedans depuis trop longtemps. Oh yeah!
Le Bivouac Festival fait son retour dans la forêt d'Olen, près de Béthune, pour une 3e édition. Du 29 au 31 août, vous pourrez assister à de nombreux concerts, mais aussi vous détendre et profiter d'activités sur place. On appelle cela un éco-slow festival. Pour en parler, Thibault Linares, chargé de communication de l'association Droit de Cité, qui fait partie des organisateurs de cet événement.
Donc, Droit de Cité est une association intercommunale de développement culturel qui existe depuis 1991 et qui donc avec les agglomérations, les communes, les salles participantes, mais aussi les associations, va mettre en place des festivals et des événements ponctuels pendant l'année. Donc on peut aller autant du festival d'art de rue que du festival jeunesse ou même du festival musique. Donc c'est vraiment très très large.
On peut citer par exemple les Enchanteurs, ça c'est un festival itinérant, et puis le Bivouac Festival, donc on va en parler aujourd'hui. C'est la 3e édition cet été. Comment il est né d'abord ce festival, parce que vous bossez là-dessus avec une société de production qui est lilloise?
Oui, avec À Gauche de la Lune. En fait, ça vient d'une idée du directeur d'À Gauche de la Lune qui, pendant le confinement, se demandait comment vivre autrement le festival, comment avoir un impact minime écologiquement sur l'environnement en proposant une programmation de qualité, mais aussi d'autres activités. Donc à partir de là, À Gauche de la Lune a réfléchi à quel projet mettre en place en s'inspirant de deux festivals, un festival en Belgique et un festival en Angleterre, et donc pour le côté éco et slow, qu'on pourra peut-être détailler juste après. Et étant donné que voilà, Droit de Cité est reconnu sur le territoire notamment du Pas-de-Calais, ils ont pensé tout de suite à nous parce que le festival a lieu au parc d'Olen, qui est juste à côté de chez Droit de Cité.
Donc on appelle ça un slow festival, si j'ai bien compris.
C'est ça, éco-slow festival.
Éco-slow festival, important de préciser. On peut tout de suite expliquer. Donc éco parce que vous avez décidé de le rendre le plus éco-responsable possible, on va le détailler aussi. Et slow parce qu'on profite, on prend son temps et on n'assiste pas qu'à des concerts, c'est ça?
C'est exactement ça. Le but, c'est de venir au festival et de profiter des infrastructures proposées par le parc, mais aussi des concerts, des activités proposées pendant le festival. Donc l'objectif, c'est voilà, de venir, de prendre le temps. En plus, ça tombe bien, c'est le week-end avant la rentrée scolaire, donc c'est vraiment un dernier moment de détente avant de la reprise. Et donc, on va être sur le côté éco, donc où là, il va avoir vraiment toute une démarche écologique, où on va cibler des artistes français ou belges à proximité du parc d'Olen et faire en sorte qu'ils puissent venir en train pour réduire les émissions de CO2. Mais il y a aussi une restauration avec des plats locaux, donc avec des denrées qui viennent du coin, de chez nous. Donc voilà, il y a vraiment toute une dimension au niveau de l'écologie. Il y a même le papier, par exemple, pour la communication, où on fait très attention de ne pas utiliser trop de papier, de ne pas jeter de papier. Il y a vraiment, ça touche vraiment tout le festival, donc autant du point de vue organisation que communication.
Et puis dans un cadre exceptionnel, parce que le parc départemental d'Olen, c'est quand même 200 hectares. Là, alors c'est ciblé surtout les concerts au niveau du camping du parc d'Olen, mais on peut aussi profiter de plein d'activités au sein du parc. Donc on va parler d'abord de ces concerts sur cette scène du camping d'Olen, donc en pleine forêt presque, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc il y a des artistes français, des artistes européens, pas très loin, on vient de le dire. Parmi les têtes d'affiche, on a notamment Odzen, ça se dit comme ça?
C'est ça, Odzen.
Qui propose quoi?
C'est un groupe de Bordeaux qui propose une musique alternative, donc on va avoir du rock, enfin vraiment, en fait il y a une couleur musicale lors du festival, pour moi c'est la pop, l'électro, et vraiment un melting pot de styles de musicaux qui vont se mélanger. Et donc chaque groupe aura vraiment son identité, mais on va sentir une sonorité similaire de chaque groupe. Et donc O2N, voilà, est vraiment dans la musique alternative. Donc ils vont piocher partout ce qu'ils peuvent retrouver, ce qu'ils peuvent aimer, et à partir de là, proposer leur propre style de musique.
Et puis il y a aussi le groupe High Fade.
Oui, High Fade, on va être plus sur du rock, même si on peut avoir des sonorités un peu plus disco, soul. Il y a beaucoup de morceaux que j'ai écoutés récemment et qui sont vraiment sympas, où des fois il n'y a même pas de paroles, et on va être vraiment sur un riff de guitare, avec vraiment, voilà, comme si on écoutait un morceau, un peu de musique électro, en fin de compte, sans parole, vraiment simple, et qui se déroule tout seul, comme la musique classique, par exemple. Donc c'était vraiment, c'est vraiment un groupe à découvrir.
Et un artiste qui a aussi comme univers la pop et puis l'électro, c'est Malik Djoudi, qui a quand même été nommé notamment aux Victoires de la musique pour un de ses albums, c'est ça ?
Exactement. C'est un artiste qui a vraiment une voix singulière, qui risque de marquer vraiment le public. Et en tout cas, ça peut être vraiment une très belle découverte. En tout cas, je l'espère que voilà, le public va vraiment apprécier cet artiste qui a lui aussi son propre univers.
Alors, une bonne dizaine d'artistes qui seront là donc au Bivouac Festival et dans le Parc d'Olin. Donc, on peut aussi profiter des activités. Alors, il y a la piscine, notamment, les fameuses luges. Il y a des cours de yoga aussi.
Oui, nous avons le Yoga Mix, donc, qui est du yoga avec de la musique, qui peut avoir lieu et qui aura lieu dans tous les cas. Et donc, voilà... C'est toujours ça, en fait, l'avantage de ce festival et le gros point fort, c'est qu'on peut venir avec son tapis de yoga, profiter de cette activité, c'est le matin, mais aussi on peut venir avec son vélo et faire un tour dans le parc. Enfin, pour un triathlète, par exemple, il peut aller à la piscine gratuitement grâce à son pass, avec son pass un jour plus activité. Il peut aller à la piscine, l'après-midi, aller faire du vélo et en fin de journée, aller courir. Donc, c'est vraiment, voilà, le but de ce festival, c'est profiter un maximum.
Le Yoga Mix, c'est une activité qui n'existe pas à la base au Parc d'Olin. Je suppose que c'est que dans le cadre du festival. Il y a d'autres activités qui sont mises en place que pour ce festival ?
C'est ça, c'est proposé par le festival. Mais il y a aussi le soir, le cinéma. En gros, en fait, dans la salle des trappeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un écran de cinéma avec un film pour les enfants, pour qu'ils puissent vraiment se détendre aussi, eux, de leur côté, et permettre aux parents aussi d'aller danser à côté en allant voir les groupes du soir. Donc, il y a vraiment ce côté très familial.
Et c'est important de le préciser. C'est important aussi d'évoquer les tarifs. Ça marche comment ? Ça marche au pass, donc pass journée, pass week-end ?
C'est ça. On a les pass week-end et les pass journée. Donc, on a un pass journée pour le vendredi, un pass journée pour le samedi, mais aussi un pass week-end, donc qui comprend le vendredi, le samedi, mais aussi le dimanche matin, qui aura donc le dimanche matin des activités, mais aussi des concerts. Donc l'avantage, c'est que voilà, chacun peut venir au festival en fonction de ses moyens. L'objectif est vraiment de profiter un maximum sans devoir forcément se dire « mince, j'ai mis X euros dans ma place, faut que je profite un maximum parce que voilà, je dois consommer étant donné que j'ai mis une certaine somme ». Non, non, vous venez, vous profitez. En fonction de la journée, vous pouvez avoir autant les spectacles que les activités. Le but, c'est voilà, de ne pas se poser de questions et se détendre.
Et ça coûte combien ?
Donc, sur le pass week-end, on va être sur du 55 euros, 28 euros pour les moins de 14 ans. Et sur le pass jour, on va être sur 28 euros, sachant que le pass jour plus activité sera à 35 euros.
Et puis, bah, bien sûr, on peut dormir au camping du parc. On peut aussi dormir dans des bulles, dans les arbres du parc de là. Enfin, voilà, il y a plein de choses sympas. Et vous attendez à peu près combien de personnes l'année dernière ? Il y avait combien de spectateurs à peu près ?
Bah, on aimerait bien qu'il y ait un maximum de monde. En tout cas, faire en sorte que le plus de monde puisse découvrir le festival, parce que c'est vraiment voilà, quelque chose de très sympa à vivre, en tout cas très intéressant. pour en revenir par exemple au camping, l'avantage c'est que c'est bien balisé, en tout cas c'est bien structuré sur le côté éco, donc on ne va pas devoir installer ou casser par exemple, ou faire des trous pour pouvoir installer le public. Tout est déjà mis en place, donc on peut accueillir beaucoup de monde, on peut aller jusqu'à 2000 personnes. Et voilà, même pour le côté camping, vous pouvez venir autant avec votre tente que venir dans les bulles, sachant que les bulles, voilà, il n'y en a que deux, donc il ne faut pas non plus trop tarder si jamais on veut aller dans ce genre de prestations. Donc c'est, voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, donc on aimerait bien 2000 personnes. Maintenant, voilà, c'est les festivals aujourd'hui, on ne peut être sûr de rien. Le but, c'est que de faire en sorte d'être en adéquation avec nos valeurs et ce qu'on veut transmettre.
Le Bivouac Festival, c'est donc du 29 au 31 août prochain dans la forêt d'Olin, près de Béthune, et vous pourrez réserver vos passes directement sur le site bivouacfestival.com. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Où est-ce qu'on va là? En tout cas, moi je suis ici, j'y reste. Je suis sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 avec vous. Voilà. Et j'y reste.
Commence à s'endormir, une étoile décide de briller. Toutes les minutes dans le monde, 18 personnes meurent de faim, 900 millions se serrent la main. On attend un bus, un taxi, un chauffeur ou bien un train. On ne fait pas aujourd'hui les choses qu'on pourra faire demain.
Toutes les minutes
dans le monde, 9 personnes attrapent le sida, la terre tremble au moins 5 fois. 500 femmes deviennent mamans suite à l'orgasme du jour d'avant. Souvenir soyeux ou accident, violeur ou bien amant. Toutes les minutes dans le monde, 150 millions d'emails sont envoyés dans le ciel. Ils croisent nos chemins virtuels, facteurs remplacés par courriel, papier et stylo bi. Devant ces parcs, clavier souris.
Toutes les minutes dans le monde,
ça accuse, ça emprisonne, ça oublie, ça félicite, ça dénonce, ça pardonne, ça recommence, ça assassine, ça aime trop, ça ment, ça cache maladroitement. Ça meurt, ça renaît, ça calcule, ça disparaît, ça pronostique, ça élit, ça critique, ça abolit, ça tanque, ça vacille, ça ferraille, ça roupie, ça gagne, ça manipule, ça cuisine ou bien salit. Ça donne des conseils, ça prend des cuites, ça arrose des jardins, ça braque des banques, ça roule trop vite, ça court pour prendre la fuite, ça évite les bombes, ça compte les gens qui manquent. Quelqu'un dit que c'était mieux avant, au temps des rois et des bouffons. Les féministes enlèvent le haut, les nudistes remettent le bas, les poissons rouges boivent de l'eau, les politiciens bouffent leurs doigts. On se regarde dans des miroirs pendant des heures de bas en haut. On s'attarde sur nos rides, nos cicatrices, nos défauts. On bombe le torse, on courbe le dos, et on retourne compter nos sous pour payer nos impôts. On dit que la terre va mal, qu'elle ressemble à un carnaval, que les idiots sont au pouvoir, alors c'est clair, y a plus d'espoir. Que Daesh fout les flopettes, que Trump fout la dèche, que Sarko est une lopette et que sa meuf est une pimbèche. On dit que l'homme devient gaga, comme si c'était une race à part, que l'être humain est dangereux, vicieux, barbare. Que le sol grouille de mauvaises herbes, de serpents et de cafards, et que la planète regorge de vilains petits connards. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on nous demande de nous aimer, on nous range les uns sur les autres et on nous dit cohabiter. Et y'a des cons qui nous observent comme des souris de laboratoire pour accoucher d'un diagnostic qui divisera les blancs des noirs. On travaille pour vivre et puis on vit pour dépenser l'argent qu'on n'a pas encore gagné mais qu'on nous a grassement loué. C'est cadeau, servez-vous, vous rembourserez quand vous pourrez. Et puis si vous crevez avant, vos enfants seront là pour payer. Hé, même les fleurs
cœur préfère pousser la tête en bas. Elle préfère être admirée par tous ces gens qui ne sont plus là, par ceux qui sont partis avant, ceux qui sont partis à temps, par ceux qui se marrent en nous regardant morfler comme des gros débutants. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça. On prend pas toujours les bonnes décisions et on fait pas toujours les bons choix. On ferme les yeux, on tend les bras et on avance à l'aveuglette sous les ordres de nos hommes de loi sans écouter notre propre planète. Et puis on s'étonne de recevoir des coups de poing dans les dents. Quand on pleurniche pour une broutille comme un enfant gâté, lorsqu'on se plaint d'une journée minable devant les horreurs du JT, ou qu'on se morfond pour un simple repas raté. On oublie qu'à l'âge du fer, il n'y avait pas de like ni de followers, qu'il mangeait à même le sol et qu'il s'aimait à même le cœur, qu'il vivait au jour le jour parce que le mot futur n'existait pas, et qu'il croyait qu'en mère nature parce qu'il n'y avait ni Dieu ni croix. Aujourd'hui, on ne sait pas encore où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va, d'un pas sûr, d'un pas lent, d'un pas timide ou chancelant. On se regarde comme des lions en cage, en miaulant comme des bébés chats. On sent la moutarde nous arriver au tarin, mais on garde notre sang-froid. On devrait réaliser que pour se sortir de toute cette merde, on a besoin de pas grand-chose. Il nous faudrait juste 2016 ans de lucidité et 30 secondes de courage, que quelqu'un ouvre tout grand sa gueule et qu'il presse sur le bouton pause en balançant « Coupez ! Oh, vous êtes mauvais !» Allez, on recommence le tournage.
La stature suprême pour devenir le chevalier. Il avait là la stature d'un M et deviendrait le valet de pied du chevalier. Les bonnes fées, le jour de son baptême, votèrent à l'unanimité. Il aurait tout les talents d'un deuxième, un second couteau planté dans la plaie du premier. Et sa pauvre mère qui pleurait de désespoir, et son pauvre père qui rejetait ce rejeton sans gloire. Sous sa cotte de maille, un double bonnet, c'est déjà trop haut pour sa taille. Caché sous son home, fait le mort derrière la muraille. Attend tranquillement la fin de la bataille. Esquiver les coups de masse d'armes aiguisées sur le crâne. Un soldat du roi ne vaut pas beaucoup mieux qu'un âne. Allez vous faire éviscérer sans pitié par un inconnu pour défendre un royaume de seigneurs parvenus. Celui qui n'a pas l'étoffe intrépide se retranche dans la lâcheté morbide, en regardant le feu dévorer les arbres, en laissant s'entretuer les enfants macabres. Quand dès l'aube les cornes de la guerre sonnent, la terre sauvage se gorge du sang des hommes, la toche du sage laisse place à l'uniforme, l'ordre barbare redevient la norme. Et si tu n'as pas la stature suprême pour devenir le chevalier, si tu as là la stature d'un M, tu deviendras le valet de pied du chevalier. Quand se sont apaisés les feux de la mitraille, quand les cadavres obscènes exhibent leurs entrailles, comme un revenant qui n'a pas l'ombre d'un remords et soulage les bouches de leurs molaires en or. Ton totem est une hyène quand la misère te mord. La fierté, un critère que la survie ignore. Trahir est un devoir de maître d'école pour le crevard sans gloire qui dépouille les morts. Il n'avait pas la stature suprême pour devenir le chevalier.
Alors pour bien achever le blasphème, alla faire l'amour à la femme du chevalier.